Mato allait s'asseoir en dehors des tentes. Il essuyait avec son bras sa figure éclaboussée de sang et, tourné vers Carthage, il regardait l'horizon. En face de lui, dans les oliviers, les palmiers, les myrtes et les platanes, s'étalaient deux larges étangs qui rejoignaient un autre lac dont on n'apercevait pas les contours. Derrière une montagne surgissaient d'autres montagnes et au milieu du lac immense se dressait une île toute noire et de forme pyramidale. Sur la gauche, à l'extrémité du golfe, des tas de sable semblaient de grandes vagues blondes arrêtées, tandis que la mer, plate comme un dallage de lapis-lazuli, montait insensiblement jusqu'au bord du ciel. La verdure de la campagne disparaissait par endroits sous de longues plaques jaunes, des caroubes brillaient comme des boutons de corail, des pampres retombaient du sommet des sycomores, on entendait le murmure de l'eau, des alouettes huppées sautaient, et les derniers feux du soleil doraient la carapace des tortues sortant des joncs pour aspirer la brise. Mato poussait de grands soupirs. Il se couchait à plat ventre, il enfonçait ses ongles dans la terre et il pleurait. Il se sentait misérable, chétif, abandonné. Jamais il ne la posséderait, et il ne pouvait même s'emparer d'une ville. La nuit, seul, dans sa tente, il contemplait le Zaïnf. À quoi cette chose des dieux lui servait-elle ? Et des doutes survenaient dans la pensée du barbare. Puis il lui semblait au contraire que le vêtement de la déesse dépendait de Salammbô, et qu'une partie de son âme y flottait plus subtile qu'une haleine, et il le palpait, le humait, s'y plongeait le visage, il le baisait en sanglotant. Il s'en recouvrait les épaules pour se faire illusion et se croire auprès d'elle. Quelquefois il s'échappait tout à coup. À la clarté des étoiles, il enjambait les soldats qui dormaient, roulés dans leurs manteaux. Puis, aux portes du camp, il s'élançait sur un cheval, et 2 heures après il se trouvait à Utik, dans la tente de Spendius. D'abord il parlait du siège, mais il n'était venu que pour soulager sa douleur en causant de Salammbô. Spendius l'exhortait à la sagesse. « Repousse de ton âme ces misères qui la dégradent. Tu obéissais autrefois. À présent tu commandes une armée, et si Carthage n'est pas conquise, du moins on nous accordera des provinces, nous deviendrons des rois. » Mais comment la possession du Zaïnf ne leur donnait-elle pas la victoire? D'après Spendius, il fallait attendre. Mato s'imagina que le voile concernait exclusivement les hommes de race cananéenne, et dans sa subtilité de barbare, il se disait « Donc le Zaïnf ne fera rien pour moi, mais puisqu'ils l'ont perdu, il ne fera rien pour eux. » Ensuite, un scrupule le troubla. Il avait peur, en adorant Aptouknos, le dieu des Libyens, d'offenser Moloch, et il demanda timidement à Spendius auquel des deux il serait bon de sacrifier un homme. « Sacrifie toujours, » dit Spendius en riant. Mato, qui ne comprenait point cette indifférence, soupçonna le grec d'avoir un génie dont il ne voulait pas parler. Tous les cultes, comme toutes les races, se rencontraient dans ces armées de barbares, et l'on considérait les dieux des autres, car ils effrayaient aussi. Plusieurs mêlaient à leur religion natale des pratiques étrangères. On avait beau ne pas adorer les étoiles, telle constellation étant funeste ou secourable, on lui faisait des sacrifices. Une amulette inconnue, trouvée par hasard dans un péril, devenait une divinité. Ou bien c'était un nom, rien qu'un nom, et que l'on répétait sans même chercher à comprendre ce qu'il pouvait dire. Mais, à force d'avoir pillé des temples, vu quantité de nations et d'égorgements, beaucoup finissaient par ne plus croire qu'au destin et à la mort. Et chaque soir il s'endormait dans la placidité des bêtes féroces. Spendius aurait craché sur les images de Jupiter olympien. Cependant, il redoutait de parler haut dans les ténèbres, et il ne manquait pas tous les jours de se chausser d'abord du pied droit. Il élevait, en face du Tik, une longue terrasse quadrangulaire. Mais, à mesure qu'elle montait, le rempart grandissait aussi. Ce qui était abattu par les uns, presque immédiatement se trouvait relevé par les autres. Spendius ménageait ses hommes. Rêvait des plans, il tâchait de se rappeler les stratagèmes qu'il avait entendu raconter dans ses voyages. Pourquoi Narravas ne revenait-il pas? On était plein d'inquiétudes. Hannon avait terminé ses apprêts. Par une nuit sans lune, il fit, sur des radeaux, traverser à ses éléphants et à ses soldats le golfe de Carthage. Puis ils tournèrent la montagne des eaux chaudes pour éviter Autharite et continuèrent avec tant de lenteur qu'au lieu de surprendre les barbares un matin, comme avait calculé le suffète, on n'arriva qu'en plein soleil, dans la troisième journée. Utique avait, du côté de l'Orient, une plaine qui s'étendait jusqu'à la grande lagune de Carthage. Derrière elle, débouchait à angle droit une vallée comprise entre deux basses montagnes, s'interrompant tout à coup. Les barbares s'étaient campés plus loin sur la gauche, de manière à bloquer le port, et ils dormaient dans leurs tentes, car ce jour-là, les deux parties, trop las pour combattre, se reposaient, lorsque, au tournant des collines, l'armée carthaginoise parut. Des goujats, munis de frondes, étaient espacés sur les ailes. Les gardes de la Légion, sous leurs armures en écailles d'or, formaient la première ligne, avec leurs gros chevaux sans crinière, sans poils, sans oreilles, et qui avaient au milieu du front une corne d'argent pour les faire ressembler à des rhinocéros. Entre leurs escadrons, des jeunes gens coiffés d'un petit casque balançaient dans chaque main un javelot de frêne. Les longues piques de la lourde infanterie s'avançaient par derrière. Tous ces marchands avaient accumulé sur leur corps le plus d'armes possible. On en voyait qui portaient à la fois une lance, une hache, une massue, deux glaives. D'autres, comme des porcs-épics, étaient hérissés de dards et leurs bras s'écartaient de leurs cuirasses en lames de corne ou en plaques de fer. Enfin apparurent les échafaudages des hautes machines, carrobalistes, onagres, catapultes et scorpions, oscillant sur des chariots tirés par des mulets et des quadriges de bœufs, et, à mesure que l'armée se développait, les capitaines en haletant couraient de droite et de gauche pour communiquer des ordres, faire joindre les fils et maintenir les intervalles. Ceux des anciens qui commandaient étaient venus avec des casques de pourpre dont les franges magnifiques s'embarrassaient dans les courroies de leurs cothurnes. Leurs visages, tout barbouillés de vermillon, reluisaient sous des casques énormes surmontés de dieux, et, comme ils avaient des boucliers à bordure d'ivoire couverte de pierreries, on aurait dit des soleils qui passaient sur des murs d'airain. Les Carthaginois manœuvraient si lourdement que les soldats, par dérision, les engagèrent à s'asseoir. Ils criaient qu'ils allaient tout à l'heure vider leur gros ventre, épousseter la dorure de leur peau et leur faire boire du fer. Au haut du mât planté devant la tente de Spendius, un lambeau de toile verte apparut. C'était le signal. L'armée carthaginoise y répondit par un grand tapage de trompettes, de cymbales, de flûtes en os d'âne et de tympanons. Déjà les barbares avaient sauté en dehors des palissades. On était à portée de javelot, face à face. Un frondeur baléare s'avança d'un pas, posa dans sa lanière une de ses balles d'argile, tourna son bras, un bouclier d'ivoire éclata, et les deux armées se mêlèrent. Avec la pointe des lances, les Grecs, en piquant les chevaux aux naseaux, les firent se renverser sur leurs maîtres. Les esclaves qui devaient lancer des pierres les avaient prises trop grosses, elles retombaient près d'eux. Les fantassins puniques, en frappant de taille avec leurs longues épées, se découvraient le flanc droit. Les barbares enfoncèrent leurs lignes, ils les égorgeaient à plein glaive, ils trébuchaient sur les moribonds et les cadavres, tout aveuglés par le sang qui leur jaillissait au visage. Ce tas de piques, de casques, de cuirasses, d'épées et de membres confondus tournait sur soi-même, s'élargissant et se serrant avec des contractions élastiques. Les cohortes carthaginoises se trouèrent de plus en plus. Leurs machines ne pouvaient sortir des sables. Enfin, la litière du suffète, sa grande litière à pendologue de cristal, que l'on apercevait depuis le commencement, balancée dans les soldats comme une barque sur les flots, tout à coup sombra. Il était mort, sans doute. Les barbares se trouvèrent seuls. La poussière autour d'eux tombait, et ils commençaient à chanter, lorsque Hannon lui-même parut, au haut d'un éléphant. Il était nu-tête, sous un parasol de byssus que portait un nègre derrière lui. Son collier, à plaques bleues, battait sur les fleurs de sa tunique noire. Des cercles de diamants comprimaient ses bras énormes, et la bouche ouverte, il brandissait une pique démesurée, épanouie par le bout comme un lotus et plus brillante qu'un miroir. Aussitôt la terre s'ébranla, et les barbares virent accourir sur une seule ligne tous les éléphants de Carthage, avec leurs défenses dorées, les oreilles peintes en bleu, revêtues de bronze et secouant par-dessus leurs caparaçons d'écarlate des tours de cuir où dans chacune trois archers tenaient un grand arc ouvert. À peine si les soldats avaient leurs armes, ils s'étaient rangés au hasard. Une terreur les glaça, ils restèrent indécis. Déjà du haut des tours on leur jetait des javelots, des flèches, des phalariques, des masses de plomb. quelques-uns pour y monter se cramponnaient aux franges des caparaçons. Avec des coutelas, on leur abattait les mains, et ils tombaient à la renverse sur des glaives tendus. Les pics trop faibles se rompaient. Les éléphants passaient dans les phalanges comme des sangliers dans des touffes d'herbe. Ils arrachèrent les pieux du camp avec leurs trompes, le traversèrent d'un bout à l'autre en renversant les tentes sous leur poitrail. Tous les barbares avaient fui. Ils se cachaient dans les collines qui bordent la vallée, par où les Carthaginois étaient venus. Hannon, vainqueur, se présenta devant les portes d'Utique. Il fit sonner de la trompette. Les trois juges de la ville parurent, au sommet d'une tour, dans la baie des Créneaux. Les gens d'Utique ne voulaient point recevoir chez eux des hôtes aussi bien armés. Hannon s'emporta. Enfin, ils consentirent à l'admettre avec une faible escorte. Les rues se trouvèrent trop étroites pour les éléphants, il fallut les laisser dehors. Dès que le suffète fut dans la ville, les principaux le vinrent saluer. Il se fit conduire aux étuves et appela ses cuisiniers. 3 heures après, il était encore enfoncé dans l'huile de cinnamone dont on avait rempli la vasque, et tout en se baignant, il mangeait, sur une peau de bœuf étendue, des langues de phénicoptère avec des graines de pavot assaisonnées au miel. Près de lui, son médecin, qui, immobile dans une longue robe jaune, faisait de temps à autre réchauffer l'étuve, et 2 jeunes garçons penchés sur les marches du bassin lui frottaient les jambes. Mais les soins de son corps n'arrêtaient pas son amour de la chose publique, et il dictait une lettre pour le grand conseil, et, comme on venait de faire des prisonniers, il se demandait quel châtiment terrible inventer. « Arrête !» dit-il à un esclave qui écrivait, debout dans le creux de sa main. « Qu'on m'en amène, je veux les voir !» Et du fond de la salle emplie d'une vapeur blanchâtre où les torches jetaient des taches rouges, on poussa 3 barbares, un samnite, un spartiate et un cappadocien. « Continue, » dit Hannon. « Réjouissez-vous, lumière des balles, votre suffète a exterminé les chiens voraces, bénédiction sur la République, ordonnez des prières. » Il aperçut les captifs et alors éclatant de rire. « Ha ha, mes braves de Sica, vous ne criez plus si fort aujourd'hui. C'est moi, me reconnaissez-vous? Où sont donc vos épées? Quels hommes terribles, vraiment !» Et il feignait de se vouloir cacher comme s'il en avait peur. Vous demandiez des chevaux, des femmes, des terres, des magistratures, sans doute, et des sacerdoces, pourquoi pas? Eh bien, je vous en fournirai des terres, et dont jamais vous ne sortirez. On vous mariera à des potences toutes neuves. Votre solde, on vous la fondra dans la bouche, en lingots de plomb, et je vous mettrai à de bonnes places très hautes, au milieu des nuages, pour être rapprochés des aigles. Les 3 barbares, chevelus et couverts de guenilles, le regardaient sans comprendre ce qu'il disait. Blessés aux genoux, on les avait saisis en leur jetant des cordes et les grosses chaînes de leurs mains traînaient par le bout sur les dalles. Hannon s'indigna de leur impassibilité. « à genoux, chacal, poussière, vermine, excréments. Et ils ne répondent pas. Ah, c'est, taisez-vous, qu'on les écorche vifs. Non, tout à l'heure. » Il soufflait comme un hippopotame en roulant ses yeux. L'huile parfumée débordait sous la masse de son corps et, se collant contre les écailles de sa peau, à la lueur des torches, la faisait paraître rose. Il reprit. « Nous avons pendant 4 jours grandement souffert du soleil. Au passage du Macar, des mulets se sont perdus. Malgré leur position, le courage extraordinaire. Ah, démonades, comme je souffre qu'on réchauffe les briques et qu'elles soient rouges !» On entendit un bruit de râteaux et de fourneaux. L'encens fuma plus fort dans les larges cassolettes, et les masseurs tout nus, qui suaient comme des éponges, lui écrasèrent sur les articulations une pâte composée avec du froment, du soufre, du vin noir, du lait de chienne, de la myrrhe, du galbanum et du styrax. Une soif incessante le dévorait. L'homme vêtu de jaune ne céda pas à cette envie, et, lui tendant une coupe d'or où fumait un bouillon de vipère, « Bois !» dit-il, pour que la force des serpents, nés du soleil, pénètre dans la moelle de tes os, et prends courage au reflet des dieux. Tu sais d'ailleurs qu'un prêtre d'Eshmoun observe autour du chien les étoiles cruelles d'où dérive ta maladie. Elles pâlissent comme les macules de ta peau, et tu n'en dois pas mourir. « Oh oui, n'est-ce pas ? » répéta le suffète, « je n'en dois pas mourir. » Et de ses lèvres violacées s'échappait une haleine plus nauséabonde que l'exhalaison d'un cadavre. 2 charbons semblaient brûler à la place de ses yeux, qui n'avaient plus de sourcils. Un amas de peau rugueuse lui pendait sur le front. Ses deux oreilles, en s'écartant de sa tête, commençaient à grandir, et les rides profondes qui formaient des demi-cercles autour de ses narines lui donnaient un aspect étrange et effrayant, l'air d'une bête farouche. Sa voix dénaturée ressemblait à un rugissement. Il dit « Tu as peut-être raison, Démonadès. En effet, voilà bien des ulcères qui se sont fermés. Je me sens robuste. Tiens, regarde comme je mange. » Et, moins par gourmandise que par ostentation, et pour se prouver à lui-même qu'il se portait bien, il entamait les farces de fromage et d'origan, les poissons désossés, les courges, les huîtres, avec des œufs, des réfors, des truffes et des brochettes de petits oiseaux. Tout en regardant les prisonniers, il se délectait dans l'imagination de leur supplice. Cependant, il se rappelait Sicca, et la rage de toutes ses douleurs s'exhalait en injures contre ces trois hommes. « Ah, traître! Ah, misérable, infâme, maudit! Et vous m'outragiez, moi, moi, le suffète! Leur service, le prix de leur sang, comme ils disent. Ah oui, leur sang, leur sang !» Puis, se parlant à lui-même, « Tous périront. On n'en voudra pas un seul. Il vaudrait mieux les conduire à Carthage. On me verrait. Mais je n'ai pas sans doute emporté assez de chaînes. » Écrit « Envoyez-moi... Combien sont-ils ? Qu'on aille le demander à Mutumbal. Va, pas de pitié, et qu'on m'apporte dans des corbeilles toutes leurs mains coupées. » Mais des cris bizarres, à la fois rauques et aigus, arrivaient dans la salle par-dessus la voix d'Anon et le retentissement des plats que l'on posait autour de lui. Ils redoublèrent, et tout à coup le barrissement furieux des éléphants éclata comme si la bataille recommençait. Un grand tumulte entourait la ville. Les Carthaginois n'avaient point cherché à poursuivre les barbares. Ils s'étaient établis au pied des murs, avec leurs bagages, leurs valets, tout leur train de satrapes, et ils se réjouissaient sous leurs belles tentes à bordure de perles, tandis que le camp des mercenaires ne faisait plus dans la plaine qu'un amas de ruines. Spendius avait repris son courage. Il expédia Zarxas vers Mato, parcourut les bois, rallia ses hommes, les pertes n'étaient pas considérables, et, enragé d'avoir été vaincu sans combattre, ils reformaient leur ligne quand on découvrit une cuve de pétrole, abandonnée sans doute par les Carthaginois. Alors Spendius fit enlever des porcs dans les métairies, les barbouilla de bitume, y mit le feu et les poussa vers Utique. Les éléphants, effrayés par ces flammes, s'enfuirent. Le terrain montait, on leur jetait des javelots, ils revinrent en arrière, et à grands coups d'ivoire et sous leurs pieds, ils éventraient les Carthaginois, les étouffaient, les aplatissaient. Derrière eux, les barbares descendaient la colline. Le camp punique, sans retranchement, dès la première charge, fut saccagé, et les Carthaginois se trouvèrent écrasés contre les portes, car on ne voulut pas les ouvrir dans la peur des mercenaires. Le jour se levait. On vit, du côté de l'Occident, arriver les fantassins de Mato. En même temps, des cavaliers parurent. C'était Narravas avec ses Numides. Sautant par-dessus les ravins et les buissons, ils forçaient les fuyards comme des lévriers qui chassent des lièvres. Ce changement de fortune interrompit le suffète. Il cria pour qu'on vînt l'aider à sortir de l'étuve. Les trois captifs étaient toujours devant lui. Alors un nègre, le même qui dans la bataille portait son parasol, se pencha vers son oreille. « Eh bien ?» répondit le suffète lentement. « Ah, tu l'es !» ajouta-t-il d'un ton brusque. L'Éthiopien tira de sa ceinture un long poignard et les trois têtes tombèrent. Une d'elles, en rebondissant parmi les épluchures du festin, alla sauter dans la vasque. Elle y flotta quelque temps, la bouche ouverte et les yeux fixes. Les lueurs du matin entraient par les fentes du mur. Les trois corps, couchés sur leur poitrine, ruisselaient à gros bouillons comme trois fontaines. Et une nappe de sang coulait sur les mosaïques sablées de poudre bleue. Le suffète trempa sa main dans cette fange toute chaude et il s'en frotta les genoux, c'était un remède. Le soir venu, il s'échappa de la ville avec son escorte, puis s'engagea dans la montagne pour rejoindre son armée. Il parvint à en retrouver les débris. 4 jours après, il était à Gorza, sur le haut d'un défilé, quand les troupes de Spendius se présentèrent en bas. 20 bonnes lances, en attaquant le front de leur colonne, les eussent facilement arrêtés. Les Carthaginois les regardèrent passer tout stupéfaits. Anon reconnut à l'arrière-garde le roi des Numides. Narhavas s'inclina pour le saluer, en faisant un signe qu'il ne comprit pas. On s'en revint à Carthage avec toutes sortes de terreurs. On marchait la nuit seulement. le jour on se cachait dans les bois d'oliviers. À chaque étape, quelques-uns mouraient. Ils se crurent perdus plusieurs fois. Enfin, ils atteignirent le cap Hermaemum, où des vaisseaux vinrent les prendre. Hannon était si fatigué, si désespéré, la perte des éléphants surtout l'accablait, qu'il demanda pour en finir du poison à Démonadès. D'ailleurs, il se sentait déjà tout étendu sur sa croix. Carthage n'eut pas la force de s'indigner contre lui. On avait perdu 400 972 sicles d'argent, 15 623 shekels d'or, 18 éléphants, 14 membres du Grand Conseil, 300 riches, 8 000 citoyens, du blé pour 3 lunes, un bagage considérable et toutes les machines de guerre. La défection de Narr-Havas était certaine, les deux sièges recommençaient, l'armée d'Autharite s'étendait maintenant de Tunis à Rhadès. Du haut de l'acropole, on apercevait dans la campagne de longues fumées montant jusqu'au ciel. C'étaient les châteaux des riches qui brûlaient. Un homme, seul, aurait pu sauver la République. On se repentit de l'avoir méconnu, et le parti de la paix lui-même vota les holocaustes pour le retour d'Amilcar. La vue du Zaïnf avait bouleversé Salammbô. Elle croyait la nuit entendre les pas de la déesse, et elle se réveillait épouvantée en jetant des cris. Elle envoyait tous les jours porter de la nourriture dans les temples. Taanach se fatiguait à exécuter ses ordres, et Shaabarim ne la quittait plus.